Chapitre 36. Didi se réveilla en sursaut à 6 heures du matin. Pas de pleurs de bébé, pas de sonnerie de réveil, pas d'Alex en train de se préparer pour le travail. Elle resta une seconde sans bouger, analysa la situation et comprit. Le 21 janvier. La date anniversaire de 2 meurtres. Le jour où Charlène Grant avait prédit qu'elle mourrait. Elle se leva. Elle enfila la robe de chambre écossaise bleu marine d'Alex et alla dans la cuisine sur la pointe des pieds pour faire du café. Pendant qu'elle y était, elle regarda sur son portable si elle avait des messages. Rien. Passant dans la salle de bain pour se laver les dents, elle fit un nouvel inventaire. Cernes violets sous les yeux, teint blafard, visage où se lisait le manque de sommeil, relâchement de la peau, récent mais très net, sous le menton. Elle fit balloter le relâchement incriminé, se dit que ce sont des choses qui arrivent à 41 ans, et, après une grimace de dépit, retourna dans la cuisine pour sa première tasse de café. Elle appela le bureau et vérifia sur sa boîte vocale qu'elle n'avait pas de message. Rien. Elle aurait dû prendre des nouvelles de ses parents, qu'elle avait maintenant réussi à éviter pendant près de 24 heures. Ils ne devaient pas être contents, à juste titre sans doute. Réflexion faite, le petit déjeuner passerait d'abord. Elle commençait à faire chauffer des gaufres après avoir préparé des œufs au bacon, quand Alex entra en se traînant dans la cuisine, l'œil vitreux. Il portait un sweat gris de la FBI Academy sur le t-shirt blanc et le bas de pyjama turquoise qu'il aimait bien mettre pour dormir. Ses joues étaient assombries par un début de barbe poivre et sel. Son sweat arborait une trace de régurgitation de bébé sur l'épaule gauche. « Ils étaient tous les deux vieux, conclut-elle. Mais, tout bien considéré, ils avaient encore de l'allure. » Elle lui servit une tasse de café.
« Tu n'as pas ta journée aujourd'hui ?»
marmonna-t-il en l'acceptant avec gratitude. « Je ne suis pas de garde, mais avec un peu de chance, ce sera une grosse journée pour nos meurtres en série. J'attends un coup de fil de la balistique d'une minute à l'autre. » Elle se remplit une tasse à ras-bord. La voyant se resservir, il s'étonna. « Je croyais que tu ne voulais plus carburer au Kawa. » « Ouais, mais il y a comme un truc dans les affaires de meurtre qui rend un petit noir absolument indispensable. » Alex, qui en buvait à longueur de journée, ne la contredit pas. Il s'attabla. Didi lui servit son petit déjeuner, configuration inhabituelle, car la cuisine était généralement le royaume d'Alex. Encore une scène d'intimité familiale, songea Didi. La veille au soir, c'était Jack et elle, une mère et son fils, et maintenant, Alex et elle, comme mari et femme au fond. C'était agaçant de penser que sa mère avait peut-être raison. Ils mangèrent dans un silence complice. Alex lut le journal et fit les mots croisés du jour. Didi s'activa dans la cuisine, lava les assiettes, les essuya, les rangea. Son cerveau tournait à plein régime. Elle se connaissait suffisamment pour savoir qu'elle était en train de comprendre quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. À 7h30, Jack se joignit à la compagnie. Alex lui donna son biberon pendant que Didi prenait sa douche. À 8h, estimant qu'il était encore trop tôt pour déranger ses parents, elle consulta à nouveau son téléphone et sa messagerie vocale professionnelle. Rien. Charlène Grant devait avoir quitté son poste maintenant. Elle avait cherché son 22, ne l'avait pas trouvé, avait compris que la police était sur sa piste, à moins que, trop distraite par la date, le danger censé la menacer et le chagrin ravivé par le souvenir du meurtre de ses amis, elle n'ait pas pensé tout de suite à cela. Peut-être avait-elle tout bonnement paniqué. Que fait-on quand on n'a plus qu'une journée à vivre? On dort un peu pour se préparer à l'affrontement imminent? On se cherche un beau gosse pour une ultime partie de jambes en l'air? On s'autorise un dernier repas à forte teneur en graisse, sucre et calories? On appelle les gens qu'on aime pour leur dire au revoir? Sauf qu'il ne restait plus grand monde à Charlène, à part sa tante Nancy et un clébard errant. Rosalind Grant. Carter Grant, un frère et une sœur décédés. Christine Grant. Une mère décédée. Charlène Rosalind Carter Grant, alias Abigail. La femme dans l'œil du cyclone. Le cerveau de Didi se remit à turbiner. À 9h, Alex, Jack et elle étaient propres comme des sous neufs et avaient le ventre plein, fin prêt. Dernière consultation de la boîte vocale, rien. Dernier coup d'œil au portable, rien. Alors Didi céda et appela ses parents pour les inviter à passer. Alex accepta d'aller les chercher à l'hôtel. Il n'avait pas loué de voiture parce qu'il ne voulait pas conduire à Boston. Ils étaient logés à Waltham, avait eu envie d'expliquer Didi, pas à Boston. Conduire dans Boston était un sport de combat. Comme pour les sumo, il fallait être le plus gros et le plus agressif pour l'emporter. Mais à Waltham, il ne s'agissait que de naviguer tranquillement dans des rues de banlieue. Elle soupira et se jura pour la énième fois qu'elle ne deviendrait pas aussi enquiquinante avec Jack en vieillissant. En fait, elle serait sans doute pire. En les attendant, Didi mit Jack dans le porte-bébé et le plaça sur son ventre pendant qu'elle aspirait le tapis de l'entrée, mettait de l'ordre dans le salon. Le séjour aurait eu besoin d'un coup de peinture. Pendant qu'ils y étaient, ils auraient sans doute dû faire recouvrir le canapé bleu délavé qui datait du temps où Alex était célibataire et poncer le parquet. Peut-être ajouter un tapis tressé pour adoucir l'espace, une plante en pot pour ajouter une touche de verdure ou, encore mieux, des rideaux. Didi se surprit à envisager de mettre du papier peint et, reprenant ses esprits, éteignit l'aspirateur pour se sermonner sérieusement. Rien à foutre de la déco. Elle était le commandant Didi Warren, bordel. Elle ne faisait pas dans le tissu d'ameublement. Elle enquêtait sur des meurtres. 9h45. Renonçant à écouter sa messagerie, elle appela directement le labo. John Cassir ne décrocha pas, alors elle lui laissa un message. Puis elle fit encore les 100 pas avec Jack. Le capitaine O était convaincu que Charlie était leur redresseuse de tort. Qu'elle s'en prenait à des pédophiles pour compenser l'impuissance qu'elle avait ressentie dans son enfance, quand elle-même était martyrisée par sa mère et qu'elle n'avait pas pu sauver ses bébés. Puisqu'elle était promise à une mort prochaine, qu'avait-elle à perdre? Mais le capitaine O était aussi convaincu que Charlène ne serait pas agressée le 21, qu'elle avait sans doute tout manigancé. Didi tika. Ces deux théories s'excluaient mutuellement. Soit Charlène avait orchestré les meurtres du 21 janvier, et donc elle n'était pas promise à une mort prochaine, soit elle se croyait sincèrement condamnée, ce qui l'autorisait à descendre des délinquants sexuels. Didi marchait de long en large. Charlène était persuadée qu'elle allait mourir aujourd'hui. Didi pouvait se tromper, mais elle en avait l'intime conviction. Ses traits tirés, ses doigts amochés, cette gorge couverte de bleu. Personne ne s'entraîne aussi dur s'il n'est pas sous le coup d'une menace réelle et imminente. Didi avait donc deux séries de meurtres à analyser. Le double meurtre de ses amis d'enfance, qui faisait logiquement de Charlène la victime d'un troisième. Et les meurtres par balle de trois pédophiles, peut-être abattus par Charlène qui aurait eu la mauvaise idée de jouer les redresseuses de tort pendant ses derniers jours ici-bas. Mais sur les lieux du troisième meurtre, Charlène s'était présentée aux jeunes témoins traumatisés sous le nom d'Abigail. Alors qu'elle se trimbalait déjà le nom de ses frères et sœurs morts. Si elle avait ressenti le besoin de donner un nom, pourquoi pas Rosalind ou Carter, ou comme à son habitude, toute la litanie. Charlène, Rosalind, Carter, Grant. Et puis d'ailleurs, quel assassin appuie sur la détente et se retourne ensuite vers les spectateurs pour se présenter? Un assassin dément, entendit-elle pratiquement le capitaine O lui répondre. Un assassin qui n'est pas tout à fait une personne, mais une personnalité dissociée. Une femme qui n'a manifestement pas réglé ses comptes avec le passé. La porte d'entrée s'ouvrit. Alex fit entrer ses parents. « Où est mon petit-fils ? » s'exclama la maman de Didi avec effusion, les bras grands ouverts. « C'est l'heure de se fabriquer des souvenirs !»« Les souvenirs, » pensa Didi avec amertume. Chacun les interprète à sa façon, ce qui lui donna une idée fort intéressante. 11h du matin, Jack s'était rendormi dans son cosy. Les parents de Didi étaient assis dans le canapé, sa mère parlait de la froideur de l'hiver, du temps épouvantable qu'il faisait à Boston, des embouteillages, de la grisaille perpétuelle, alors que, soit dit en passant, le soleil brillait et le ciel était bleu vif, et du déficit du système de santé dont personne ne parlait au gouvernement, mais qui signifiait qu'aucune personne âgée n'était plus couverte correctement. « Ne vieillissez pas, » suggéra-t-elle en conclusion. « C'est un enfer. On se retrouve littéralement noyé sous la paperasse. » Et à la minute où on a tous ses médecins et ses médicaments bien comme il faut, ils changent les règles et il faut tout reprendre à zéro. Alex, assis dans le rocking chair, avait le regard légèrement ailleurs. Il avait sa quatrième tasse de café à la main, mais à voir la façon dont il ne cessait d'en contempler le fond, ça ne marchait pas. Didi ne tenait plus en place. Elle ramassa les jouets de Jack, les deux. Puis elle rajusta sa couverture, déplaça son cosy, apporta deux autres jouets à son bébé endormi, et les posa à côté de lui dans le siège auto, juste au cas où. « Alors, quand est-ce que vous venez en Floride ?» dit sa mère. « Quoi ?»« On pensait au mois de mars, » continua sa mère avec un regard vers son père. « Il fait doux, il y a du soleil tous les jours. C'est tellement mieux que de le passer en Nouvelle-Angleterre, chérie. C'est vrai, si vous avez de la chance, les températures vont, quoi, enfin repasser au-dessus de zéro ?» Tu pourras emmener Jack à la plage, lui tremper les doigts de pied dans la mer. Et puis, bien sûr, on aimerait faire une fête. Rien de grandiose, juste pour que nos amis vous rencontrent, toi et Jack. Oh, et Alex, bien sûr. Alex tressaillit en entendant son prénom. Il leva les yeux, légèrement paniqué à l'idée de ce qu'il avait pu rater. « On s'occupera des billets, » continuait la mère de Didi. « Ce sera notre cadeau à Alex et toi, un cadeau de naissance. » Elle rayonnait. Debout au milieu du séjour, Didi se cramponnait au doudou de Jack comme si sa vie en dépendait. Elle regarda Alex. « La Floride ?» demanda celui-ci d'un air hébété. « Oui, » expliqua Didi. « Il voudrait qu'on aille les voir, en mars. » « Il fait beau en Floride en mars, » dit-il. « C'est vrai. »« D'accord. Quoi ? Allons-y. En mars, ce sera chouette de voir où vivent tes parents. » Puis il se leva et passa dans la cuisine. Le portable de Didi sonna. Probablement l'unique raison qui lui épargna de commettre un triple meurtre. Le nom du capitaine O s'affichait à l'écran. « Il faut que je prenne cet appel, » murmura-t-elle en se dirigeant au pas de course vers la chambre du fond. « Cassir vient d'appeler. » annonça O sans préambule. « Les tests balistiques sont positifs pour les deuxième et troisième meurtres. Pour le premier, la balle est trop abîmée, comme il l'avait prédit. Mais bon, 2/3. » « Ouais, » convint Didi, dont le cerveau se remit à turbiner. « 2/3, j'achète. Demande un mandat d'arrêt pour Charlène Rosaline Carter Grant. Je suis dessus. Tu as regardé Facebook ce matin ? La page que tu as créée ? Oui, 1100 fans et ça grimpe encore. » Pas de menaces, ni de cinglés repérables au premier coup d'œil. L'ex-mari n'a plus rien posté. Une poignée de personnes qui semblent avoir été au lycée avec les deux victimes, mais impossible de savoir si elles sont psychopathes. Il nous faudrait plus de temps. Tu pourrais regarder leur date d'anniversaire ? Si ça figure sur leur profil, ce n'est pas toujours le cas. Cherche un 21 janvier. Aujourd'hui ? Tu penses que ce serait sa façon de fêter son anniversaire ? Il doit bien y avoir une raison pour que ce soit le 21 janvier, non ? Cette date ne représentait rien dans la vie de Randy, ni dans celle de Jackie, ni dans celle de Charlie. Donc elle représente quelque chose pour le tueur. « Joyeux anniversaire ?»« Voilà, » répondit Didi. Et au moment où elle disait cela, les dernières pièces du puzzle s'imbriquèrent. Sa rumination était terminée. La réponse était arrivée. « Charlène Rosaline Carter Grant, c'est ça notre problème. » Nous avons toujours pensé que cette histoire tournait autour de Charlène Rosaline Carter Grant. Oui, mais peut-être pas. Peut-être que ça n'a rien à voir avec Charlène, et peut-être tout à voir avec Abigail. Charlie est Abigail. Le rapport balistique le confirme. Possible, mais ça ne répond toujours pas à cette question. Notre assassin a bien pris soin de se présenter sous le nom d'Abigail. Pourquoi ? Elle voulait réconforter le petit garçon. Elle déteste les pervers, pas les victimes. Elle pouvait le réconforter sans lui donner de nom, mais elle a bien précisé « Je m'appelle Abigail ». En mémoire de sa sœur, le bébé dont on n'a pas encore retrouvé le corps. Donc, elle a pris comme deuxième et troisième prénom les noms de Rosalind et Carter, mais avec Abigail. Dédoublement de personnalité. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Il me semble que c'est pour ça qu'on appelle ça de la démence. Et le 21 janvier. Insista Didi. Les deux meilleurs amis de Charlène ont été assassinés à cette date. Pourquoi ? La question reste posée. Malheureusement, personne n'en connaît la réponse. Cela dit, on aura peut-être enfin de nouveaux éléments aujourd'hui. Je crois que les deux questions forment un tout, dit Didi. Quelle question ? Abigail et le 21 janvier. Nous ne connaissons que Charlène Rosaline Carter Grant, tu vois ? Nous n'avons fouillé que dans son passé, nous l'avons interrogée, elle. Mais Abigail, pourquoi ce nom ? Pourquoi cette date ? Tu suggères qu'Abigail serait le lien entre l'assassinat de ses amis et le meurtre de délinquants sexuels ? Je crois. Mais la voix de O était hésitante. Abigail est Charlie. En fait, si c'est un cas de trouble de la personnalité multiple, c'est faux. Abigail n'est qu'une partie de Charlie. Mais concrètement, ces deux-là ne se sont jamais rencontrés. « Bon, je peux arrêter Charlie ?» demanda O. « Oui, on a le rapport balistique. Appuie-toi dessus pour obtenir le mandat. Ce ne sera pas un mal de mettre Charlène à l'ombre, mais crois-moi, celle qu'on veut vraiment coincer, c'est Abigail. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle détient la clé de tout ça. » « Je m'en vais arrêter Charlène Grant, » dit O sur un ton qui sous-entendait que Didi déraillait elle aussi. « Très bien. Je m'en vais me renseigner sur Abigail. On verra qui de nous deux trouve l'assassin la première. »